Eh bien, bonjour. Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de la résistance française. Je remercie tout de suite Stéphane à la technique pour la réalisation de cette émission. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous poser vos questions, remarques, observations, que ce soit au standard de Radio Courtoisie ou si celui-ci ne répond pas, eh bien, envoyez-nous un courriel électronique à mon invité comme à moi-même et nous ne manquerons pas de répondre à vos questions qui, à mon avis, seront nombreuses, vu le sujet. Le sujet, c'est une locution latine, d'abord, « Fiat veritas, pereat mundus », que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Le titre de cette émission, bah, « La vérité dans l'espace public hein, », affaire Brigitte. Et oui, on reparlera de l'affaire Brigitte. Pourquoi ne pas en parler? C'est pas interdit. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, il y a une vérité peut-être derrière cet incendie, derrière cette reconstruction. Macron, y a-t-il une vérité dans le en même temps macronien, par exemple? On pourra parler peut-être aussi, durant cette émission, de la Joconde, de tout ce qui est de l'ordre de la vérité. Mon invité, eh bien, c'est l'auteur de ce livre, justement, aux collections La Table Rouge, Fiat Veritas Pereat Mundus, c'est Bertrand Scholler. Bonjour mon cher Bertrand, bienvenue dans ce livre journal.
Bonjour Nicolas, et je suis ravi de te retrouver et de, à chaque fois, voir la manière avec laquelle tu prends en main les émissions très professionnellement. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble.
Ah, j'espère bien qu'on va passer un bon moment. On avait passé un très bon moment il y a de cela trois mois, sur cette affaire de cyberharcèlement. Bertrand Scholler, qui est galeriste, Bertrand Scholler, qui est un auteur, un écrivain, a été, bien malgré lui, mis en cause dans l'affaire du cyberharcèlement de Brigitte Macron, avec un certain nombre de co-accusés. Il a été d'ailleurs ignominieusement condamné. J'ai pu faire même d'ailleurs de ce procès une critique acerbe, certes, mais parce qu'elle le méritait, qui montrait justement le côté totalement injustifié de ces des condamnations sur le cyberharcèlement, sur ce procès en cyberharcèlement, ce qu'on a le droit de dire, et en tout cas le droit de penser. Et eh bien Bertrand Scholler, aujourd'hui, nous revient sur Radio Courtoisie, justement, pour cet ouvrage, où il traite de beaucoup, beaucoup de sujets, nombreux et variés, aussi sur Notre-Dame de Paris, ça va faire partie de ces sujets qu'on va aborder. La vérité, déjà la vérité, comment est-ce que c'est pas extrêmement, optimiste que d'imaginer que puisse s'articuler dans l'espace public la vérité, et comme tu l'écris d'ailleurs, fût-ce au prix du monde, ce qui veut dire que, bah, alors là, c'est le quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, macronien, trouve toute sa vérité dans cette locution latine. Comment peut-on articuler une vérité dans un espace public?
Alors, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous le sentiment qu'il y a la guerre et qu'elle s'approche de nous. Avec ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine, en fait, les conséquences directes ou indirectes. Mais là, par exemple, aujourd'hui, j'étais en voiture dans le Loiret, il y avait des chars sur des transporteurs de chars. Donc, je ne sais pas où ils vont, je ne sais pas à quoi ils vont servir, mais je pensais qu'on n'avait plus beaucoup de chars en France. Manifestement, ils sont en mouvement. Et, mais tu sais que dans toute guerre, donc, il y a la communication est très vite une arme de guerre. Et on a un président de la République, je vais juste rappeler anecdotiquement, donc il y avait une émission chez vous un peu plus tôt sur les 10 ans de son élection, qui vont, c'est, on est pratiquement aux 10 ans, et Emmanuel Macron, c'est le président qui a mis le mot guerre comme alpha et l'oméga de sa communication.
Oui.
Il a remonté les Champs-Élysées dans un commande-car militaire le dimanche où il a demandé à être intronisé, entre guillemets, premier président de la République, de la Ve République, à prendre ses fonctions un dimanche, alors qu'en fait, il est employé de la nation, donc il commence à travailler le lundi. Hein, un président, c'est un employé, c'est pas autre chose qu'un employé, c'est pas un roi, c'est pas un dieu, c'est pas. Donc lui avait déjà changé subtilement ça, et Hollande avait cédé, puisqu'il arrivait en fait au moment de la messe du dimanche, tu sais, le matin. Et donc c'était lui qui s'était
Intéressant.
consacré en fait.
Intéressant.
Et quand tu es en période de guerre, et lui est en période de guerre depuis le début, et tu sais qu'ils sont en train de changer la loi de programmation militaire, il l'avait déjà changée en 2023, et tout le monde sait le pouvoir qu'en fait Emmanuel Macron s'est donné, ils sont en train de refaire la même chose. Et donc en période de guerre, le mensonge est, entre guillemets, autorisé. Et donc Macron, dès le début, nous dit, si je mens, c'est normal, on est en guerre. Et en guerre, on a le droit de mentir.
Voilà.
Et on a le droit d'avoir des secrets. Donc tu connais hein, tous les placards, le Covid, tous les réunions stratégiques,
D'où les
toutes les
conseils de
dossiers.
défense avec
Ouais.
le secret défense. Hein. Il en faisait une encore ce matin sur la guerre en Iran, je me souviens.
Exactement. Et c'est 50 ou 70 ans. Donc je crois que le Covid, ils ont mis ça à 70 ans. La plupart, c'est 50 ans. Donc en fait, personne ne sera vivant qui a été conscient de ce que faisait Macron quand les dossiers sortiront. Donc tout avec lui est mensonge, mais il nous annonce que comme on est en guerre, on est obligé de mentir. Et parce qu'en fait, tu connais mon analyse d'Emmanuel Macron, en principe, le diable, pour obtenir notre consentement, ne ment pas, puisqu'il faut que le consentement soit valide,
Soit
bien
éclairé, libre,
informé.
libre et éclairé.
Mais comme lui nous dit dès le début qu'il ment, puisqu'on est en guerre et qu'en guerre, et donc en fait, quand il ment, eh bien, il nous a prévenu qu'il mentait en fait. Donc il a le droit de dire la vérité, comme il le fait avec son portrait officiel, comme il le fait avec beaucoup de choses, et je pense qu'on y reviendra, avec son sourire au moment de l'incendie de Notre-Dame, avec j'ai entendu hein, tes émissions où tu racontes des informations que tu tiens de sources crédibles sur des cérémonies qui ont eu lieu à Notre-Dame. Donc on voit que c'est un personnage qui est extrêmement étrange et qui attire autour de lui, pour les gens qui le croisent, un sentiment très bizarre d'être vampirisé. Donc vous avez eu chez vous, d'autres chaînes, un leader de mouvement agricole qui disait, je suis arrivé, j'avais vraiment envie de lui tomber dessus et je suis tombé amoureux de lui en quelques minutes.
Pierre
Et on
Guillaume
était tous pareils.
Mercadal.
Non
Pierre
mais c'est...
Guillaume
Ouais.
Mercadal de la coordination rurale est tout à fait.
Et c'est intéressant d'avoir ça en tête. Donc pour revenir... À ta question initiale sur la vérité, en période de guerre, même, et tu sais, je lisais un article ce matin, c'était quelqu'un qui disait, mais vous reprochez à Trump de mentir, mais aux États-Unis, tout le monde ment depuis toujours, et les Israéliens mentent, et les Américains mentent, etc., etc. Et donc lui est obligé de mentir. Mais en réalité, on voit bien. Les seuls qui mentent pas, ce sont les Russes et les Chinois. Et leur crédibilité dans le monde entier augmente. Alors évidemment, les Iraniens exagèrent un peu. On s'en est rendu compte
Probablement.
puisqu'ils avaient annoncé que si telle chose se passait, telle réaction aurait lieu. Bon, la réaction n'a pas eu lieu à la hauteur de ce qui avait été annoncé. On est tous obligés de le constater. En revanche, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui au Liban, on voit que le tweet d'hier de Netanyahou en disant j'accepte le cessez-le-feu mais pas sur le Liban, ça voulait dire quelque chose puisqu'ils ont tiré sur 100 cibles, 100 cibles, sur dont une quinzaine dans Beyrouth
Près
en
de
10
300
minutes de 5.
morts. Ouais,
Ouais, 300 morts dans Beyrouth. Donc, mais ce qui est hallucinant, c'est que ça devient normal en fait. C'est-à-dire que nous, à Paris, on aurait un attentat créé par des islamistes qui ferait 5 morts rue des Rosiers, le monde entier serait en deuil et circulerait dans la rue, mais Beyrouth, quand c'est Israël qui tue 300 personnes et on n'a aucune idée du nombre de personnes dans des décombres, rien que dans Beyrouth,
des
on n'a pas
de
les
blessés.
Chiffres, et des milliers de blessés, mais c'est normal en fait. Personne ne va mettre « je suis Liban » sur son Facebook ou sur son Twitter. En fait, il y a des morts qui ne valent rien et des morts qui valent beaucoup. Et donc, on se connaît depuis 5 ou 6 ans. Bon, je crois qu'on avait pris un verre, on avait déjeuné ensemble dans un petit restaurant pas très loin de ma galerie.
Exact.
Au moment où j'avais commencé à m'intéresser, à participer, entre guillemets, à l'exercice de dissidence, entre guillemets. Je me rappelle très bien de notre rencontre. Mais à l'époque, j'ignorais... Merde, j'ai l'écran qui...
C'est
la
pas
caméra
grave,
qui tombe.
Je t'en prie, vas-y.
J'ignorais à quel point la vérité était remise en cause. Donc toi, tu savais, puisqu'on en avait parlé, tu fais du journalisme depuis longtemps, tu as été très impliqué, très engagé, tu as gardé une vraie éthique par rapport à ces choses-là, mais c'est quelque chose d'assez rare, en fait. Et donc, après avoir passé 4 ans en étant de plus en plus impliqué là-dedans, puisque maintenant, je fais que ça, entre guillemets, j'y consacre ma vie, eh bien, évidemment, le premier livre que j'ai voulu écrire, ça m'a paru naturel de dire... rien n'a de valeur, rien n'a d'intérêt si le premier combat qu'on a dans un univers de menteurs, c'est pas la vérité. Et donc, il faut mettre ça au-dessus de tout. Et la deuxième partie, c'est fût-ce au prix du monde. Parce que je pense qu'un monde dans lequel la vérité disparaît, puisqu'en fait, dès que tu fais des compromis avec la vérité, eh bien, ça dérape et tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Ce n'est plus un monde vivable. Et ça, ça m'est apparu comme une évidence quand il a été très clair que les Palestiniens allaient vivre un génocide à Gaza. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit et j'ai structuré toute ma pensée et mon action en disant « Mais si on accepte ce qui est en train d'arriver... » aux Palestiniens, alors que c'est en mondiovision, qu'on sait qu'il n'y a plus d'anesthésie pour les amputations, alors qu'il y a des bombardements et des amputés à faire tous les jours. Les journalistes sont tués. Il y a une disproportion des forces qui est inimaginable. Les drones, les avions, les chars, etc., etc. Et même si quelques personnes de ce qu'on appelle la dissidence montraient des images de snipers ou autres, c'était infiniment disproportionné, en fait.
Oui.
Et le monde a accepté ça parce que c'était des méchants qui avaient soutenu les gens qui avaient fait le 7 octobre. Sauf que toutes les enquêtes sérieuses, toutes les informations sérieuses conduisent à penser qu'il y a une forte crédibilité que jusqu'à très haut placé le gouvernement d'Israël, de Netanyahou, était non seulement au courant, mais impliqué. On sait qu'il était impliqué dans des financements. Mais
dans les financements du Hamas, dans le fait d'avoir été, semble-t-il, informé du 7 octobre, mais de n'avoir rien fait.
Exactement. Et donc, en fait, et surtout la Knesset, puisque Netanyahou avait dit quand il y aura un cessez-le-feu ou la paix, ce sera le moment d'enquêter. On ne va pas enquêter maintenant, il faut mettre tous les moyens pour... Et finalement, la Knesset a voté l'interdiction d'enquête sur le 7 octobre. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, c'est même pas, ils ont dit l'enquête sera classée confidentielle, un peu comme ils font aux États-Unis sur le 11 septembre, l'assassinat de Kennedy, etc., dont ils ne nous montrent pas les documents les plus intéressants, qui sont sans doute liés à Israël. Et on a exactement la même chose en Israël, sauf que là, ils ne font même pas d'enquête. Alors que toutes les enquêtes faites par des journalistes ont montré que les chiffres étaient farfelus, les annonces étaient fausses, les circonstances n'avaient aucun rapport avec la réalité, que les ordres avaient été donnés à l'armée de reculer. Israël, c'est un petit pays, comment expliquer que les hélicoptères et les avions aient mis autant d'heures pour intervenir alors qu'une semaine avant, même une souris ne serait pas sortie de Gaza, etc., etc. Et donc là, je me suis dit, c'est plus possible, on doit dire la vérité. Et oui, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas mesuré à ce point-là. Et en observant ce qui arrivait à des gens comme Dieudonné, Soral, etc., mais d'autres qui sont moins populaires, mais en réalité beaucoup plus engagés, il y a en France une panoplie de lois qui va connaître son paroxysme si la loi Yadan passe, sachant qu'il y a une pétition en ce moment qui en est à son 550 000
exemplaires. Oui, il y aura un débat à l'Assemblée, on a dépassé les 500 000 signatures contre la loi Yadan, tout à fait.
Mais qui a commencé avec les lois Pleven dans les années 70.
Oui, toutes les lois mémorielles.
Puis Guesso, puis la loi Schiappa, puisque c'est ce dont on doit parler là, un peu de Brigitte, mais en fait tout est lié. Non mais tout est lié, puisque la loi Schiappa va être un des instruments de la loi Yadan. C'est-à-dire qu'en fait la loi Yadan, ça va être un fourre-tout de tout, pour nous empêcher de dire que ce que vient de faire Israël aujourd'hui, c'est indigne d'un État. Et le fait de dire que c'est indigne d'un État, ça pourrait être requalifié comme une considération que l'État n'a pas le droit d'exister.
Comme et une apologie de terrorisme, comme une remise en cause de la Shoah, simplement parce qu'on aura dit, par exemple, qu'il y a une purification ethnique en cours au Liban, qu'il y a une élimination systématique des Gazaouis. Voilà, on n'a plus le droit, on n'aura plus le droit de dire cela.
Mais c'est d'une gravité incroyable. Oui,
bien sûr.
Parce qu'en fait, tout ça se passe, et comme la loi de programmation militaire s'était passée après la crise des banlieues et les manifestations sur les retraites, et bien là, cette loi Yadan, elle se passe après une grosse période de stress qu'on vient de vivre avec la crise iranienne. Crise iranienne qui n'est pas neuve, hein, puisqu'il y a eu l'été dernier, puis en décembre, les révoltes, et ça avait duré. Puis là, maintenant, cette guerre qui a duré 40 jours. Et donc, évidemment, les députés, tout le monde est très émoussé par ce qui s'est passé. Et surtout, il faut être d'une grande naïveté pour ne pas voir la force des lobbies qui sont impliqués. Puisque pour promouvoir la loi Yadan, tu as à peu près tout ce que les télés comptent comme stars, animateurs, etc., qui sont impliqués. Yadan, quand même, qui est, je crois qu'elle est députée des Français de l'étranger pour Israël.
Donc, déjà, entre autres, pour le Moyen-Orient, le Proche-Orient, dont Israël, et qui était membre de Renaissance, qui a quitté d'ailleurs Renaissance le jour où Macron a reconnu le droit aux Palestiniens d'avoir un État, ce qu'elle n'a pas supporté Caroline Yadan, et donc a quitté le parti du chef de l'État à cette occasion.
Ouais, mais enfin, en même temps, tout ça, c'est un peu la danse du diable. Parce qu'il fait ça pour se faire de la pub auprès de certaines personnes, dire « Ah non, non, mais vous me soupçonnez d'être très pro-Israël, pro-machin, mais non, regardez, souvent Netanyahou n'est pas content avec moi parce que j'interdis le survol de certains types d'avions. » Mais en fait, c'est des avions qui sont censés transporter des armes, qui sont censés aller en Israël et qui sont censés être utilisés. Comment tu veux démontrer ce qu'il y a dans l'avion alors qu'ils survolent le territoire, enfin, tout est n'importe quoi, y compris donc Yadan, qui évidemment est soutenu mordicus par le parti Renaissance et qui se représentera avec une étiquette Renaissance, ça fait partie du cinéma.
Ce qui est et plus par le CRIF, et par et l'influence par CRIF. Du CRIF, le cornu étant allé au dîner du CRIF, hein, pour dire cela.
Comment elle remplace, tu sais, un député qui, je crois, a été condamné pour violence, qui est très copain avec Netanyahou, qui s'est fait traiter de porc par un député LFI qui a été innocenté. Comment il s'appelle ?
Oui, oui, tout à fait.
C'est lui qu'elle remplace.
Comment ? Oui, oui, elle le remplace,
Ce qui est intéressant, c'est quand même le profil des gens qui sont élus à ce poste. Et on est vraiment sur ces questions-là.
C'est celui qui l'a traité de porc, c'est celui qui est devenu le maire de pas de Tourcoing, mais de la ville du Nord, là, juste à côté, bah, décidément, c'est David Guiraud
oui,
qui est
voilà.
devenu maire et qui a traité en effet de porc le fameux, l'ineffable, l'inénarrable meilleur Habib.
Ah, voilà,
meilleur
c'est ça.
Habib qui n'est plus député aujourd'hui, oui, tout à fait.
Mais lui, il avait plein de plaintes, hein. Enfin, et puis il disait, mais j'aurais dû lui casser la figure. Enfin, il y a beaucoup de violence, si tu veux. Et tout ça, ça devient rigolo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chevalerie. On n'est plus à l'époque de Gaston de Fer où tu disais, bah, écoute, je jette mon gant et on se retrouve en duel demain matin à 6h à l'aube sur le port de Marseille. Là, en fait, c'est des voyous, en fait, ou des ex-voyous.
Voilà.
Mais ce qui montre bien les conflits d'intérêts terribles, parce que dans la Constitution, et ça, c'est un point qui est important, que j'ai vérifié aujourd'hui par rapport à la loi Yadan. En fait, quand un homme ou une femme, d'ailleurs, puisque quand tu es israélien, les femmes font aussi leur service militaire, eh bien, quand tu fais, en France, la Constitution oblige quelqu'un qui fait son service militaire pour un autre pays à prendre la nationalité de l'autre pays et à quitter la nationalité française. Sauf que cette loi, elle n'est jamais appliquée pour Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une exception pour Israël, mais pourtant la loi, elle est censée s'appliquer pour tout le monde de la même manière. Il n'y a pas marqué dans la Constitution sur cette question-là. Là, on est sur une question constitutionnelle. Il n'y a pas marqué, sauf si la personne fait son service militaire pour Israël, ce qui serait d'ailleurs impossible. Mais quand les policiers, et là on revient à l'affaire Macron, te disent... ou les juges, mais je suis obligé de vous juger par rapport à la loi, je ne peux pas interpréter, etc. Vous avez fait un tweet sur le sujet, il y a des milliers de personnes qui ont fait des tweets sur le sujet, donc vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a une meute de personnes qui font des tweets, vous êtes machin, etc. Donc vous êtes coupable. Et ça prend 10 secondes. Et ensuite, sa fille est venue... et nous a dit que sa mère était pas bien, etc. Le docteur a dit oui, elle est troublée, sans préciser la date, sans préciser les conséquences, sans préciser. Donc, vous êtes coupable parce qu'il y a une meute et que vous avez fait un tweet sur le sujet, et vous êtes responsable parce que en fait, il y a une dégradation de la santé. Donc, vous êtes parfaitement en application de la loi. Donc, ils sont capables de faire quelque chose de tiré par les cheveux de façon invraisemblable pour obtenir des condamnations dans le procès de Brigitte Macron un peu avant ses procès aux États-Unis, puisqu'en fait, elle arrive auréolée de 10 condamnations en France. Donc, tu vois comment tout ça se met dans le timing de ce qu'elle fait aux États-Unis. Donc, pour les juges américains, comment est-ce qu'ils peuvent imaginer que la justice française est descendue à ce point-là? Comment ils peuvent imaginer que les Français ont laissé passer des lois comme la loi Schiappa? Et dans aucun pays normal, une loi comme ça, c'est envisageable. D'ailleurs, elle avait du mal à passer. Tu sais, ils ont essayé. Et puis finalement, c'est passé. Comment c'est passé? Parce qu'il y a eu une histoire de cyberharcèlement d'une jeune fille à l'école, scolarisée. Ça a sensibilisé tout le monde partout. Et donc, aucun député se voyait refuser une loi qui va protéger des enfants qui étaient emmerdés. Sauf que la loi ne sert jamais pour les enfants, merde.
Jamais.
Elle ne sert que pour les puissants qui ont envie de se débarrasser des lanceurs d'alerte. Puisque c'est ça la nature de ta question et de tout ce problème. C'est qu'il y a des questions qui existent auxquelles nous n'avons pas de réponse. Il y a Xavier Poussard que tu as eu souvent à ton antenne, quelle que soit la chaîne, et que tu connais personnellement comme moi et comme d'autres personnes, qui a fait un travail considérable. Natacha Ray également a travaillé sur ce dossier. Il y a beaucoup de personnes.
Natacha Ray, Bertrand, qui est venue sur... et là, nous avons été les premiers sur la bande FM, je crois les seuls d'ailleurs, à inviter Natacha Ray au tout début de l'affaire Jean-Brigitte, de l'affaire Brigitte, pardon, que dis-je, de l'affaire Brigitte, excusez-moi, et donc ma langue a fourché, et donc en effet, Natacha Ray, que nous avons eue au tout début de l'affaire, qui est venue témoigner un mercredi soir, tout comme toi, sur Radio Courtoisie, dans un libre journal de la Résistance française. Tu peux bien sûr continuer. Et j'aurai une ou deux questions à te poser sur la vérité en général avant de rentrer dans le détail de ces affaires. Mais je t'ai coupé, donc vas-y, termine.
Et donc, tu as rencontré toutes ces personnes qui ont fait d'importantes enquêtes, qui d'ailleurs sont sous le coup de plaintes. Alors, on ne sait pas trop où ça en est par rapport à Xavier Poussard, puisqu'en fait, il est sous le coup de la même plainte pour laquelle il y a eu 10 personnes. Mais on a un peu le sentiment qu'il fait partie de cette plainte sans vraiment faire partie de la plainte. Mmh. C'est-à-dire, ils ont dit, mais oui, évidemment, lui aussi, c'est le big chef de file, il est là. Mais il semblerait qu'ils n'avaient pas vraiment envie de l'entendre non plus. Parce qu'il y avait le côté journaliste, côté document. Ils ont préféré prendre des personnes pour des tweets que de devoir dire, bah, lui, forcément, il est là pour un livre. Et un livre best-seller mondial qui n'a été retiré d'aucun pays, qui n'a été interdit nulle part, qui n'a fait l'objet d'aucune plainte en diffamation.
C'est ça.
Et c'est, tout ça est surréaliste. Et sachant qu'avant le livre, il y avait eu les enquêtes de faits et documents. Mmh. Avant les enquêtes de faits et documents, il y avait eu bah, des interviews chez toi à la radio et dans d'autres grands médias et petits médias, enfin peu importe, entre guillemets. C'est quelque chose qui était à la télé chez Drucker dès 2017. Arnaud de sa mère, chez Drucker en 2017, plaisantait sur ce sujet.
Mmh.
Donc, comment veux-tu que quelqu'un sur Internet en 2024 qui parle d'une photo de maillot de bain qui a été vue par des milliards de personnes qui a fait le tour du monde 50 fois soit considéré comme responsable d'une dégradation de la santé de quelqu'un qui subit des colibés depuis au moins 2017 dans la plus grande émission de France, qui est l'émission de Michel Drucker, le dimanche après-midi, qui par ailleurs est un ami de la famille et qui était mort de rire. C'est-à-dire que quand tu revois rétrospectivement ça, tu te dis, mais en réalité, ils savent tous des choses que nous, on ne sait pas.
Mmh.
C'est-à-dire que nous sommes des pauvres gens qui ignorons ce qui est une évidence pour le monde de la télé, le monde connecté à Mimi Marchand, pour simplifier.
Mmh.
C'est-à-dire que ce monde-là semble disposer d'informations et disposer de moyens de faire taire les informations qui dépassent en fait les moyens qu'on a. Et d'ailleurs, les gens qui connaissent bien la presse disent que la photo qui a fait le tour du monde... Elle a bizarrement été lâchée dans la nature par une des filles de Brigitte Macron, mmh, sur son compte Instagram ou Facebook. Et d'ailleurs, dans le cadre du procès, au milieu de l'audience, elle a fait sauter la photo de son compte. Alors c'était la première fois où la photo était trouvée sur Internet, c'était la fille qui l'avait fait. Mais évidemment, la mère n'a pas attaqué sa fille.
Non.
Puis cette photo s'est retrouvée dans un L en Slovénie ou en Slovaquie. Mais pourtant, c'est des petites personnes sur Internet. Moi, j'ai été condamné pour avoir fait des posts qui dataient d'après la plainte. Non, mais tu sais bien que ce n'est pas un sujet qui m'intéressait, puisque moi, je pense que ce couple, c'est beaucoup plus vertigineux que juste une affaire de genre.
Mmh.
C'est-à-dire que les mystères qui entourent ce couple, ce binôme...
Le couple Brigitte Macron. Et Emmanuel, ouais.
C'est, ça dépasse l'entendement, c'est-à-dire que quand on ira au bout de ça, si un jour on peut aller au bout de cette histoire-là, ce qu'on découvrira rendra anecdotique toutes les questions de genre et toutes les questions de sexualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... tu sais, souvent, quand je suis amené à parler de ce sujet-là, j'évoque le film « Damien, la malédiction ».
Oui, 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 tout à fait. Damien ou la malédiction. Mmh. Sur justement l'antéchrist. Damien qui est l'expression même de l'antéchrist. Ouais. Mmh. Ah, on a une coupure, Bertrand Scholler.
C'est un film de 76.
Ouais.
C'est un film qui a été mis au monde en même temps que Macron était censé être conçu. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Ouais.
Et Macron, c'est l'homme Damien. Et le héros, entre guillemets,
oui, l'homme Damien, des apostrophes,
s'appelle Damien.
Excellent.
Non mais, on peut, si tu veux, on peut s'amuser de toutes ces choses-là.
Oui.
Mais à un moment, si tu veux, quand tu as des milliers de coïncidences, tu sais, tu as une banque off-américain dans la ville de Charlotte, où il y a ce qu'ils appellent le triptyque de l'Apocalypse. Donc, c'est une fresque. Donc, j'invite les gens. Ce n'est pas l'aéroport de Détroit. Il y a beaucoup de fresques d'Apocalypse. Mais là, quand je dis une fresque, c'est que c'est peint comme une fresque. Ce n'est pas peint sur une toile, c'est peint selon la technique des fresques. Eh bien, le peintre qui a fait cette fresque s'est rendu en France dans les années 90 pour apprendre la technique des fresques.
Ouais.
Et où est-ce qu'il est allé ?
À Amiens. À Amiens.
Et dans la fresque, il y a un jeune garçon qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Emmanuel Macron à 12 ans.
Ah bon ?
Parce qu'en fait, il y était dans la période 89. C'est-à-dire que les premières photos qu'on voit d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'en fait, dans la fresque, tu as Emmanuel Macron qui est superposé. Et tu sais comment j'ai découvert ça ?
Non.
Parce que c'est toujours... J'avais fait toute ma vidéo sur l'interprétation du portrait officiel d'Emmanuel Macron, qui s'est pas mal diffusé un peu partout. Et j'ai un Américain qui... tu sais, les Américains sont très friands de tout ça.
Ouais.
Et il butait dans l'analyse de cette fresque, c'est, il y a trois, c'est un triptyque. Hein,
Trois panneaux. Ouais, le triptyque, le fameux triptyque. Ouais. Mmh.
Et il ne savait pas, en fait, qui était cet enfant. Donc, il se disait, ça pourrait être Baron Trump, mais par anticipation.
Ah bah oui, par anticipation, en 89, il n'était pas né, Baron Trump.
Exactement, mais ça pouvait être beaucoup de choses. Et puis surtout, il y a un noir dans la fresque, donc il se disait, c'est peut-être Obama, petit, c'est ça. Et puis, mais surtout, il y a une femme... en l'air, dans la fresque, qui est dans un cube, en trois dimensions.
Ouais.
Et tu sais, le cube, c'est le côté masculin, la sphère, c'est le côté féminin, et tu as l'impression d'avoir une femme enfermée dans un cube, quoi.
Ouais.
Avec tout ce que tu peux, si tu veux, quand tu es un spécialiste.
Elle ressemble à qui, cette femme?
Ah bah ça, je peux pas dire, mais c'est une femme, parce que moi, je sais pas la vraie couleur des cheveux des uns et des autres. Mais elle est liée manifestement à cet enfant. Et cet enfant sur le tableau a quelque chose de très particulier. Son visage est coupé en deux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une partie du visage qui est sur un fond jaune, hein, comme dans un cube, donc lié au cube qui est derrière. Parce qu'en fait, la peinture comme ça, tout est lié. Et l'autre qui n'est pas lié à ça. Et tu sais que dans le portrait officiel d'Emmanuel Macron, si tu sépares le visage entre la droite et la gauche, t'as un visage qui est séducteur et un visage qui est menaçant. Et donc, c'est très intéressant de voir ce tableau dans lequel ils font le même découpage. Mais peut-être encore une coïncidence. Sauf que dans le fond du tableau, qu'est-ce que t'as ? T'as un sapin qui brûle, en fait. Donc, ça peut faire penser à la religion, tu sais, le Moïse,
le buisson ardent.
Le buisson ardent, etc. Mais ça peut aussi faire penser à Notre-Dame.
Oui.
Puisqu'en fait, la forme de ce sapin peut rappeler la flèche de Notre-Dame.
Oui.
Puisque, tu sais, c'est comme un cône. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette photo, dans ce tableau, dans ce triptyque.
Dans ce triptyque.
Y compris dans les autres tableaux. Puisque tu en as un où on a vraiment l'impression qu'il représente le Covid. Et t'en as un où il représente le monde d'après, où on a l'impression que c'est un monde où il n'y a quasiment plus de survivants, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on marche sur... Alors, je te dis de mémoire, hein, je n'ai pas vu ce tableau depuis 3 ou 4 ans, mais ce qui est bizarre, c'est quand tu es avec certains types d'intervieweurs, ta manière de présenter, en fait, rouvre des cases dans mon cerveau, en fait.
Donc, mais ça paraît tellement...
Très longtemps,
Bertrand,
en fait.
Bertrand, ça paraît tellement énorme qu'on se dit, est-ce que c'est ça la vérité qui doit advenir. C'est-à-dire que cette vérité semble tellement énorme, les gens se disent, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est du délire.
Mais les gens ne se disent même pas ça. En fait, ils n'écoutent même pas quelqu'un qui dit ça, parce que ça fait pratiquement 9 ans qu'on leur explique que Macron est le mec le plus nul du monde, qui gouverne rien, qui va bientôt sauter, que tout le monde sait qu'il va sauter, etc. Et donc, en fait, tout ce qu'ils pourraient dire, il faudrait quand même s'inquiéter un peu de lui. Les gens le prennent d'une pichenette en disant « Non, il est quasiment parti. Bon, on va encore souffrir quelques mois. » Mais... Et donc, en fait, ça leur passe au-dessus de la tête. Mais les mêmes personnes disent ça depuis 2017.
Ouais.
J'en connais qui ont fait leur fonds de commerce de dire qu'ils ont des informations très, très fiables qui disent que Macron va tomber dans quelques mois. Mmh. Quelqu'un, par exemple, comme Campagnol, que j'aime bien par ailleurs, mais n'a jamais arrêté de dire depuis 7 ans ça. Alors, depuis 1 ou 2 ans, on s'est rencontrés d'ailleurs à cette époque-là, il se pose d'autres questions. Donc, il a un pied dans, il va partir, et un pied dans, il est inquiétant.
Oui, oui, Christian dit clairement qu'il est inquiétant. Même.
Oui, mais il a beaucoup changé sur cette question. Il a énormément changé, comme de plus en plus de personnes. Mais il y en a que tu as écouté, que tu as entendu, qui disent c'est Brigitte qui gère, c'est Alexis Kohler qui gère, c'est Rothschild qui gère, c'est machin qui gère. Mais en fait, tous ces gens sautent ou sont pas là, ou sont censés discuter avec lui, ou lui flanquer des baffes, etc. Quand on a parlé de l'émission un peu avant, on avait dit on pourrait reparler de ce psy italien.
Le psychiatre Zegatori, qui a dit, attention, Emmanuel Macron est, d'après ce psychiatre, un pervers narcissique, un psychopathe. Il est dangereux. Il a commis deux interviews, un entretien en 2017, un autre en 2022, parce qu'il en a fait deux, on l'oublie d'ailleurs. Dans le premier, il a dit attention à Macron. Macron est très dangereux pour la France, disait-il. Et en 2022, il dit, je me suis trompé, Macron n'est pas seulement dangereux pour la France, il est dangereux même pour moi, l'Italien, il est dangereux pour l'ensemble de l'Europe. Et en effet, ce psychiatre, sans avoir jamais vu Emmanuel Macron, néanmoins, a un diagnostic confirmé sur l'état psychique de notre chef d'État.
Mais, et c'est là où on revient à la question de la vérité. Le diagnostic qu'il porte, et moi je ne suis pas du tout psychiatre, je ne remets pas en cause, etc. Oui. Il est structuré sur une idée simple, c'est qu'on a affaire à un couple sexuel. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour sexuel entre quelqu'un qui serait beaucoup plus âgé qu'un autre. On sait que ça existe. Des couples avec une très grande différence d'âge, où ils tombent amoureux et ils consomment comme s'il n'y avait pas de différence d'âge. D'accord ? Donc, toute la question dans l'analyse de ce couple ou de ce binôme, de cet Italien, repose là-dessus. C'est-à-dire que lui part du fait qu'un jeune enfant de cet âge-là, pris en main dans son éducation, à la fois scolaire, puisque c'est une maîtresse, et sexuelle, puisque ce serait une maîtresse, mais d'un autre genre, ne peut que être dégradé psychiquement, détruit psychiquement, et en résulte un personnage volcanique et dangereux, sans âme, pour résumer.
Oui, Zegatori dit l'abus sexuel dont il aurait été l'objet, en effet, a fait d'Emmanuel Macron ce qu'il est devenu. Oui, tout à fait. Oui.
Mais si on n'est pas dans un abus sexuel, si on n'est pas dans une relation consommée, si on est dans une relation qui est beaucoup plus bien différente de ce qu'on peut imaginer. Une des pistes évoquées par Xavier Poussard ou autre, mais tout ça peut ramener à des MK Ultra, peut ramener à des sociétés secrètes, peut ramener au film Damien La Malédiction. Si on est en présence d'un binôme qui n'a rien à voir avec une relation passionnelle, entre guillemets, alors tout devient complètement différent. C'est-à-dire que lui pensait que ce couple, comme tous les couples, dysfonctionnels, entre guillemets, explose d'un moment ou un autre. C'est-à-dire il y a un moment, ça ne peut pas marcher, en fait. Mais eux, leur couple, fonctionne de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en réalité, on les voit, plus le temps passe, plus ils co-gèrent, entre guillemets, tout. C'est-à-dire qu'elle, elle est aux États-Unis avec Melania Trump, elle joue parfaitement son rôle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va aux États-Unis pour attaquer les Américains sur le premier amendement. Mais elle est très astucieuse, elle ne les attaque pas sur le premier amendement par rapport à moi, Brigitte Macron, qui suis attaquée par Candace Owens. Elle les attaque sur le cyberbullying, le cyberharcèlement, C'est-à-dire qu'elle introduit l'idée d'une loi SCIAPA à mettre en œuvre aux États-Unis à cause des réseaux sociaux. Mais c'était... En fait, elle est en train... Elle fait ça pour conditionner les Américains. Et tous les grands médias américains ont repris ouais. Brigitte Macron qui vient au secours des enfants américains. Parce que ce qu'on a oublié dans sa présence aux États-Unis, c'est que tout le monde a montré, comme d'habitude... Le robot, le machin, il avait une voix d'homme. Donc, tu vois, on te dit, regarde là, comme ça, tu ne vas pas regarder là. Tu sais, comme un magicien. Donc, tous les réseaux se sont animés. Elle a été doublée par une voix d'homme, avec un robot, un machin, etc. Mais personne ne s'est intéressé à la seule raison pour laquelle elle était là. Parce qu'évidemment, elle n'a pas traversé l'Atlantique pour aller voir Melania Trump, pour faire partie d'un truc sans aucun intérêt, pour boire un thé et être prise en photo avec Melania Trump. Elle s'en fout. Elle a déjà été en photo sur le balcon de la Maison Blanche avec Emmanuel Macron qui faisait le signe du diable avec ses doigts derrière les mains de Trump. Oui, mais tout ça, on l'oublie. Tout ça, on l'oublie. Mais elle, elle y va pour mettre une graine là-dedans. Et comme tous les médias américains sont extrêmement friands d'Emmanuel Macron. En fait, en France, on pense qu'il est détesté partout. Non! Beaucoup de gens dans la dissidence, entre guillemets, ne l'aiment pas, mais en France, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Et à l'étranger, il est adulé, même en Chine. En Chine, les selfies qu'il a fait, tu sais, en courant pour aller voir les enfants.
Totalement, oui.
Nous, les gens, on dit, ah, regardez, il se ridiculise encore une fois. Mais non, oui. La photo, elle a fait des centaines de millions de vues en Chine. Les enfants l'adorent. En se disant, il est génial ce jeune président, il court, il vient voir les enfants, il fait des selfies,
une sorte
regardez
de Kennedy,
comme il est sportif, ouais. etc. Exactement. Et en plus, il est amoureux d'une femme âgée, alors qu'en Chine, tu sais que tu as plein de femmes célibataires,
ouais.
comme aux États-Unis, comme partout. Donc, les desperate housewives, ça veut dire quelque chose. Donc, ce couple dysfonctionnel devient ouais. un argument dans des mondes dans lesquels. Eh bien, finalement, qu'un jeune homme séduisant, président, etc., soit avec une femme bien plus âgée, fidèle, etc., ça devient quelque chose qui devrait inquiéter tout le monde, avec la lecture de ce psychiatre, devient un argument commercial dans lequel les Français, en grande partie, sont tombés. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, ce couple, dont elle, son âge, c'est la date de naissance de MKUltra, alors les gens qui t'écoutent et qui m'écoutent, ils savent tout ça, mais oui. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est quand même dingue que la date de naissance
c'est
de
fou.
Macron soit la date officielle du lancement du programme MKUltra.
Exactement.
Que la date de naissance d'Emmanuel Macron, c'est le 21 décembre 1977, le solstice ouais. d'hiver, le jour de la nuit. Donc c'est le jour du diable.
Le jour le plus sombre.
Voilà, le jour le plus sombre. Qui vient d'Amiens. Damien, la malédiction d'Amiens, et que son portrait officiel, et regardez ma vidéo, parce qu'on ne va pas pouvoir refaire toute la vidéo, mais ouais. il y a toute une typologie d'antéchrist, en fait, et ça ne peut pas être des coïncidences, hein, les deux iPhones, l'encrier, l'heure sur l'horloge, les livres choisis, la disposition de ses mains, le cuir rouge qui a été changé pour l'occasion, etc., etc. Et tout ça a été filmé en direct par Sibeth Ndiaye, donc on voit que ce n'est pas lui qui est victime de quelqu'un de fou qui lui dit « fais la photo comme ça », c'est lui qui met tout en place. C'est-à-dire qu'il a son sac, et il est en transe, il est mis en place. Et de toute façon, il explique souvent, il dit « mais moi, c'est transcendantal ». Depuis avant d'être élu, jusqu'à après son élection de 2022, 17, 22. Quand il décide de, tu sais, de dissoudre le Parlement…
Oui, en 2024.
Il est interviewé par un blogueur et le blogueur lui dit « Mais comment vous prenez ces décisions ?» Parce qu'on sait que Chirac, ça lui avait pas réussi, Villepin lui disait non et tout, et vous, avec qui vous en discutez ? Et lui dit « J'en discute, c'est transcendantal. » Non mais il le dit ! Il le dit ! Et on sait qu'il en avait discuté avec personne. Et ensuite, Brigitte est interrogée. Et elle dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, il prend ça très au sérieux, il en discute très sérieusement. » Ils essaient de lui dire « Mais il n'en a parlé à personne, est-ce qu'il en a parlé avec vous ?» Et elle ne s'embête même pas à lui servir d'alibi, en fait.
Ouais.
ils n'ont même pas besoin de cacher, puisqu'en fait, comme tout le monde le prend pour un idiot, même Trump, pourquoi ils pousseraient, en fait, c'est très agréable pour eux de passer pour des idiots, parce que, tu sais, c'est usual suspect. Moins
Kaiser
soupçonnable d'être le super assassin, plus tu vas échapper à toutes les enquêtes. D'ailleurs, au moment où il se prend la gifle...
Sur le tarmac à Hanoï, oui.
Mais qui, quand il sait que la porte d'un avion s'ouvre, qui est bien éduqué, qui est président, ne s'arrête pas immédiatement. Enfin, tout le monde, même des voyous invétérés, s'arrête quand une fenêtre s'ouvre devant des milliers de photographes, tu vois. Sauf si c'est une mise en scène. Une mise en scène pour le faire passer pour quelqu'un qui est finalement pas grand-chose. Parce qu'il sait que ça va se cristalliser dans la tête de toutes les chancelleries. Donc les gens se méfient moins de lui. Alors qu'en fait, c'est l'époque où on réalise qu'il tire les ficelles au Vatican. Tu sais, il avait déjeuné avec des cardinaux français. Il avait vu Zelensky en privé dans le jardin quelques heures avant qu'il rencontre Trump. Quand Trump avait décidé de plus faire venir Zelensky à Washington, c'est lui qui avait reconvaincu Trump de revoir Zelensky. Quand Zelensky quitte en claquant la porte le bureau de Trump, c'est Macron que Zelensky appelle, etc., etc. Et donc là, il commençait à y avoir un frémissement. Les gens se disaient, oh là là, mais Macron, il tire pas mal de ficelles avec les Européens, avec Zelensky, avec le pape, avec le machin, etc. Et paf, la gifle. Ah ben non, heureusement que j'ai pas creusé cette piste. Vraiment, les Français ont raison. Les complotistes avec qui je discute ont raison. Ce mec est nul. Et en fait, c'est le piège parfait. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait, Bertrand. Bertrand, on va faire une très courte pause, un très court bobino. Hein, c'est passionnant, on pourrait y passer des heures et on revient tout de suite après avec toi, si tu veux bien.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Voilà, chers auditeurs, vous vous sentirez mieux puisque vous aurez aidé votre chère Radio Courtoisie. Je rappelle que vous êtes dans Libre Journal de la Résistance française et nous sommes en compagnie de Bertrand Scholler qui a émis un livre, voilà, qui vient de publier un livre, Fiat Veritas Pereat Mundus, que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde, Bertrand Scholler, c'est aux collections La Table Rouge, le voilà le livre, hop hop hop, voilà, Fiat Veritas Pereat Mundus, que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde, c'est les éditions La Table Rouge. Et vous pouvez donc vous procurer cet ouvrage. N'hésitez pas, ça en vaut la peine. J'en ai lu quelques-unes des meilleures pages déjà. Bertrand, peut-être, parce qu'on va nous reprocher après d'être totalement obsédé par Emmanuel Macron, il y a un sujet, et ça va nous permettre de rester un peu sur Emmanuel Macron et puis d'aller au-delà, que tu développes beaucoup dans ce livre, c'est la question de l'incendie de Notre-Dame, incendie de Notre-Dame au moment de la Semaine Sainte en avril 2019. Eh bien, nous sommes sur la fin de la séquence des Gilets jaunes. Emmanuel Macron doit tenir un discours le soir même, un débat télévisé sur les Gilets jaunes. Et puis, cette information qui va sidérer le monde, Notre-Dame de Paris en feu, ce cœur de pierre qui est en feu. Et tu fais quelques très très belles pages dans Fiat Veritas Pereat Mundus sur justement Notre-Dame. Est-ce que tu pourrais nous parler déjà de Macron par rapport à Notre-Dame, par rapport à Notre-Dame en feu, ce sourire en coin qui est le sien avec Édouard Philippe lorsqu'ils arrivent sur les lieux de l'incendie, et puis aussi cette façon qu'il a de tout de suite s'accaparer, hein, c'est le cas de le dire, la reconstruction de Notre-Dame et en 2024, à l'automne 2024, eh bien, tenir des discours au cœur même de Notre-Dame de Paris. Il se prend pour Dieu, Macron, à ce moment-là. Il est au centre de toutes les attentions et il fusionne, il mélange un petit peu, je dirais, le laïc et le sacré. Il est dans son élément, il mélange tout, Macron, à ce moment-là. J'aimerais un petit peu ton regard, je tiens à le dire, d'écrivain, d'auteur, presque romancier, puisque d'ailleurs, Fiat Veritas, Pereat Munus est... Tu dis, c'est un livre témoin. C'est un livre témoin, ce n'est ni un roman ni un essai, c'est un livre témoin, dis-tu. C'est un livre témoin et il y a une base romancée qui est extrêmement plaisante, d'ailleurs, dans la lecture de ce livre.
Alors, merci Nicolas. Alors, pour moi, j'étais à Paris, à quelques centaines de mètres de Notre-Dame, quand, ouais. Quand on annonce l'incendie. Et donc, évidemment, dès que tu apprends ça, tu sors dans la rue et tu vois la fumée, en fait, qui s'élève dans le ciel. Alors, il faut quand même situer Notre-Dame, c'est au bord de la Seine. Comme tu dis, c'est pendant la Semaine Sainte, donc c'est au printemps. Donc, il fait humide, il fait frais à Paris. On n'est pas du tout un jour de canicule sous les toits de Paris. On sort d'une période très humide, dans une ville qui est fraîche, dans une ville dans laquelle il pleut beaucoup, et on est au bord de la Seine, donc un incendie de Notre-Dame, ça paraît assez peu probable, immédiatement. Et donc je me rappelle, j'étais à un dîner, et à ce dîner, il y avait quelqu'un qui travaillait pour un grand journal américain, à tendance catholique, et qui me dit, bah tiens, on cherche des personnes à Paris, enfin la rédaction cherche pour interviewer. Et moi, j'ai la rédactrice qui m'appelle pour voir si je fais l'affaire, et moi, immédiatement, j'émets la thèse du complot. Donc inutile de dire qu'ils ne vont pas m'interviewer. En fait, l'idée de sortir des narratifs effraie tout le monde. Et pourtant, on sait qu'on a l'architecte Mouton en charge de la réflexion de Notre-Dame, ouais. Qui dit, dès son interview, ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible. Le système est neuf, les process sont parfaits, et du bois millénaire ne brûle pas, surtout du chêne de cette taille. C'est-à-dire, même si ça brûle, il faudrait des heures. Et même après des heures, le bois est tellement épais qu'en fait, le feu va créer du charbon qui va protéger le cœur du bois. Donc, en fait, les poutres ne vont pas brûler. Mmh. On connaît tous les châteaux qui ont été incendiés pendant la Saint-Barthélemy, etc. Tu sais, c'était des châteaux avec des très grandes poutres. Ouais. Mais les poutres des châteaux incendiés servent encore aujourd'hui à des tas de maisons et des tas de châteaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés récupérer dans les décombres les poutres, ouais, qui n'ont pas brûlé.
Ouais.
Il faut vraiment réaliser ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réutilisé ces poutres parce qu'elles ne peuvent pas brûler. Les pompiers le disent, il y a des tas de personnes qui ont mis des chalumeaux pour...
Alors là, j'ai l'impression qu'on a une coupure. Peut-être que la technique va pouvoir m'expliquer la situation.
Oui, cher Nicolas, je confirme qu'on a été coupé. Ben, on va attendre quelques instants. On peut peut-être faire une petite pause musicale en attendant que notre invité revienne.
Alors, à moins qu'il ne revienne tout de suite, on va laisser 30 secondes. Et puis, s'il n'est toujours pas revenu à ce moment-là, mon cher Stéphane, en effet, nous ferons une petite pause musicale. Je rappelle le livre de Bertrand Scholler aux collections La Table Rouge. Fiat veritas pereat mundus, que la vérité advienne fût-ce au prix du monde. Je pense que notre ami Bertrand Scholler, voulant manipuler sa caméra, a dû couper sa connexion. Ça devrait donc revenir rapidement, j'espère. Eh ben voilà, là, il est un peu de travers. Et je pense qu'il a fait une erreur de manipulation, Bertrand Scholler. Voilà, c'est déjà mieux. Est-ce que tu m'entends, Bertrand?
Oui. Oui, je t'entends très bien. Très bien.
Il faut arrêter. Laisse ta caméra tranquille. Je te vois sans arrêt essayer de la redresser. Ça va très bien, je t'assure. Donc, si vraiment il y a un problème,
donc,
je te le dirai.
En tout cas, Notre-Dame ne peut pas brûler. Et
alors,
il se passe quelque
chose. Continue ton
raison. Que le fameux Mouton, qui est quand même une personne très sérieuse. À cette époque-là, je suis à la direction générale du Stade de France, donc je suis un des directeurs généraux du Stade de France, et je connais ces problèmes d'incendie dans les grosses infrastructures. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais le risque d'un incendie total est nul. Pour mille raisons. C'est-à-dire que tu as des mécanismes de protection, de protection, de protection qui font que ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que dans les combles de Notre-Dame, il n'y a pas d'archives de papier, il n'y a pas de mal avec des documents ou des vêtements qui pourraient brûler, il n'y a rien. Tu n'as que des poutres immenses qui ne sont même pas séparées par de la poussière et tu n'as pas de système électrique. Donc, tu n'avais pas d'électricité, justement, pour éviter l'incendie. Et ce que Mouton explique très bien dans son interview. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une nouvelle règle qui est mise en œuvre et qui va concerner le corps des architectes des monuments nationaux. Ils n'ont plus le droit de s'exprimer dans les médias sans avoir une autorisation officielle. Et donc, tu n'entendras plus jamais Mouton, tu n'entendras aucun architecte des monuments officiels, tu vas entendre que des gens. Et ça, ça te rappelle ce qui va se passer avec le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, dès que quelqu'un qui connaît veut s'exprimer d'une question qui embête le chef de l'État, eh bien, l'ordre dans lequel travaille cette personne qui a une forme de crédibilité va changer la règle du jeu. Et on sait que ça s'est passé pour l'ordre des médecins avec le Covid. On sait que ça se passe pour tous les ordres à chaque fois que quelque chose embête. Et donc, on a un faisceau de choses qui semble indiquer que Notre-Dame, c'est quelque chose de criminel. Mais surtout, en fait, il y a quelque chose qui est pire, c'est que le président français nous annonce qu'on va réinventer Notre-Dame et qu'elle ouvrira pour les Jeux Olympiques.
C'est ça, en 2024, 5 ans après.
Et donc, il va, avec Brigitte Macron, s'occuper de réinventer Notre-Dame. Et alors, il y a, comme à chaque fois, des trucs pour nous distraire l'attention. Tu vois, le robot, la voix d'homme du robot, mais en fait, à côté, ils attaquent le premier amendement. Bien là, ils disent, tiens, on pourrait mettre un truc qui ressemble à une bite au sommet, etc.
ça, évidemment... Ça, c'est Brigitte qui proposerait donc une nouvelle flèche.
Mais tout ça, c'est faux, en fait. Et, ou alors, c'est fait exprès pour que ce soit tellement gros que tout le monde se dise « Mais vraiment, ces complotistes, ça n'a plus quoi inventer. » Et même quand Roselyne Bachelot reprend ça dans un livre, faire un scoop pour en vendre 500 de plus ou je ne sais pas quoi, on sait que bon, c'est pas très sérieux, entre guillemets. Mais en revanche, ce qui est très sérieux, c'est tous les changements qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont fait parce qu'ils ont pris en main directement le pilotage de Notre-Dame.
C'est vrai,
à tel point que le général qui s'en occupait a été retrouvé mort dans des circonstances très bizarres.
Bien méchant de chute.
Il n'aimait pas la balade, il n'aimait pas l'escalade, il n'en avait jamais fait. Mais là, subitement, en pleine retraite, en pleine bourre, il décide de partir seul, faire de l'escalade. Non mais... En fait, on voudrait faire un assassinat de quelqu'un, tu vois, qui a des remords de participer à une œuvre noire, pour simplifier les choses, que ils auraient pu faire comme avec Matt Metzner, tu vois, dire qu'il avait coulé d'un optimiste en pleine nuit dans le bassin du Morbihan en mars 2013. Ah, tu vois, quelqu'un qui aimait pas, qui venait de se péter le col du fermur et qui décide d'aller faire une balade en optimiste en pleine nuit. Et là, on a quelqu'un qui aime pas. Bah, tu vois, décidément, quand ils veulent suicider quelqu'un, ils font pas d'efforts.
Ouais.
D'autant qu'il y a eu des doutes sur le fait que ça aurait pu se passer ailleurs, etc. Enfin, il y a des trucs très bizarres.
En Ukraine, éventuellement.
Mais toujours est-il, et c'est ce dont tu as insisté en introduction pour parler de Notre-Dame, c'est qu'en fait, Macron va faire un cycle de cérémonies où il va officier dans Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire une fois devant le monde entier, où il rentre triomphalement derrière un cardinal et des évêques qui sont habillés comme Uno, Microsoft ou machin, enfin bref. Mais je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui a été très choquant là-dedans.
Et de Castelbajac, d'ailleurs.
Voilà. Mais il a fait une cérémonie devant les ouvriers et les compagnons qui avaient travaillé. Il en a fait une autre pour organiser une visite avec les évêques. En fait, c'était lui qui présentait aux évêques son chantier et dans lequel il dit « Regardez, c'est un bleu très particulier. Il est entre le bleu clin et le bleu royal.
Ouais. »
Alors après, bon, il y a un truc de fréquence de bleu, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y aura un lien avec un 666. Bon, tout est extrêmement bizarre. Les couleurs du plafond, le dôme étoilé qui rappelle les temples maçonniques,
ouais.
La distribution de Notre-Dame. C'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent, qui ont l'habitude d'aller dans une église, savent que le baptistère, en général, il est sur la gauche à l'entrée d'une église.
Oui.
Dans une alcôve, souvent à gauche. C'est comme ça, c'est une tradition religieuse. Et là, dans Notre-Dame, il se retrouve au centre, plus comme un baptistère, mais comme une fontaine, et qui rappellerait le temple de Salomon.
Mmh.
Et ensuite, quand tu rentres, tu sais, un autel d'une église et a fortiori d'une cathédrale, il ne peut être fait que de pierre et de bois. C'est la règle. Tu regardes, oui. Que ce soit au Vatican, partout, pierre et bois. Alors, tu peux avoir du métal pour la structuration ou d'autres choses, mais il faut, si c'est des matières, c'est comme ça. Et il y a toute une règle autour de l'exorcisme, d'ailleurs, de l'hôtel, du lieu, des meubles, de tout ça, et qui nécessite, en fait, que ce soit des matériaux qu'on trouve dans la nature tels que. Et ils vont être travaillés par l'homme, mais c'est des matériaux pas transformés par l'homme.
Oui.
Et là, l'hôtel de Notre-Dame, il ressemble à un bio et il est entièrement en bronze.
Oui, tout à fait.
Et ils expliquent qu'il est en bronze au cas où il y a un autre incendie
pour avoir
remplacé l'hôtel. Mais comment ? On vient de refaire Notre-Dame pour 800 millions d'euros et ils annoncent qu'il y a un risque de nouvel incendie et que cet hôtel est tellement important et tellement génial qu'il faut qu'il soit en bronze pour ne pas avoir à le changer, alors qu'on a tous vu les images et l'hôtel de Notre-Dame n'était pas abîmé.
Oui, exact.
Il était intact. La croix au-dessus de l'hôtel était intacte.
Oui,
l'hôtel était intact. Et le coq était cabossé, mais intact. Et bien, quand tu vas à Notre-Dame de Paris aujourd'hui, le coq, il est mis dans une espèce de cage... un peu au fond, mais comme un gadget, en fait, comme s'il n'avait aucune importance. Il n'a pas été restauré. Il est resté noirci, mais comme s'il fallait célébrer cet incendie qui avait vaincu le coq. Donc, il fallait refaire Notre-Dame, changer le coq, et je t'invite à regarder le nouveau coq. Il ressemble plutôt à un phénix. Donc, c'est quand même un clin d'œil à un animal fantastique, tu vois, renaître de ses cendres, mais ça fait un peu... dessin animé, manga japonais, ça ne fait pas culture catholique. Et le coq, qui était un coq dans lequel il y avait des épines, de la couronne d'épines, et il y avait d'autres reliques religieuses très importantes, n'a pas été réparé. Mais qu'est-ce qui est mis en scène dans Notre-Dame ? Ce n'est pas une croix qui a résisté à l'incendie. Ce n'est pas un hôtel qui a résisté à l'incendie, c'est même pas le coq qui a résisté à l'incendie, puisqu'encore une fois, il est présenté dans un coin, il faut aller. Hein. Moi, je suis allé, franchement, je me suis senti très mal à l'aise dans Notre-Dame, très très mal à l'aise. Ça ressemblait à un lieu commercial et pas du tout à la cathédrale de France, et le cœur de la rosace des cathédrales de France, puisque c'est la position qu'occupe Notre-Dame de Paris. Mais surtout, c'est cette espèce d'œil d'Horus. C'est-à-dire que Macron a fait créer un nouveau présentoir pour la couronne d'épines.
Un reliquaire, oui.
Ouais. Et il faut savoir que la Sainte-Chapelle a été construite pour accueillir la couronne d'épines et que la Sainte-Chapelle n'a pas été touchée par l'incendie. Donc, depuis quand la couronne d'épines doit rentrer dans Notre-Dame, ce qui n'est pas du tout sa place, puisque... sa place, c'est la Sainte-Chapelle. Aller dans la Sainte-Chapelle, vous comprenez pourquoi c'est la place d'un des objets les plus importants de la religion chrétienne, avec le Saint-Sueur. Et donc, à nouveau, avec ce bleu très particulier, mais c'est quelque chose qui a une forme ronde, qui rappelle des objets un peu égyptiens. Mais surtout, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des épines sur la façade de l'objet, et il y en a 396.
Mmh.
Et 396, je ne vais pas rentrer dans des exercices de formules mathématiques, mais c'est un chiffre qui est très lié, en fait, directement lié à 666.
Mais bien sûr, c'est 6 fois 6 fois 6. Enfin, voilà. Non, c'est 300, oui, non, mais oui, parce que ça fait 18 en réduction, et c'est donc 6 fois 3. Ouais. Oui, tout à fait.
Et donc, on est tout le temps, mais il y a plein d'autres liens, on est tout le temps dans ces signes qui ont commencé, je vais quand même le rappeler au cas où ça a été oublié, avec l'élection de Macron avec 66,6% des voix. Alors les gens disent non, c'est 66,06. Bah oui, 66,06, ça se lit 66,6. Alors que si c'était 66,60, ça se lirait 66,60. Non, ils ont fait le truc parfait. Ça, c'est le chiffre du ministère de l'Intérieur. Macron a été élu président de la République française avec 66,6% des voix. Il a été intronisé devant une pyramide qui, comme par hasard, avait un spot qui faisait que quand il se mettait devant la pyramide avec les bras écroisés et écartés, on avait l'impression qu'il avait un troisième œil au-dessus de la tête, ouais, au sommet de la pyramide. Mais évidemment, il ne faut pas voir ça. Comme il ne faut pas voir Damien, comme il ne faut pas voir 66,6, comme il ne faut pas voir la différence d'âge. Comme... En fait, il y a des milliers de coïncidences, et il y en a plus tous les jours. Il y en a eu son discours chez les Bernardins, donc j'invite tes auditeurs à écouter le discours de Macron aux Bernardins, vous allez
être aux effrayés. Évêques.
Il faut écouter son discours devant les francs-maçons.
Devant la Grande Loge de France, oui.
Exactement, dans lequel il explique que la France est la fille naturelle de la République.
Oui.
Elle n'est pas la fille aînée de l'Église, elle est la fille naturelle de la République. Une fille naturelle, c'est une pute. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le Code civil, Napoléon dit maintenant les bâtards ou les filles de pute ou n'importe quoi, on ne peut pas les appeler comme ça, on les appellera des enfants naturels. Qui n'ont pas de père, si tu veux. Mmh. Parce que le terme était plus joli. Macron ne peut pas ignorer ça. Et donc, quand il dit « on est la fille naturelle de la République », il dit quelque chose.
Qui est de l'ordre de la prostitution, en tout cas.
Exactement. Mais surtout, qui est une insulte à tous les catholiques de France, puisqu'on est la fille aînée de l'Église. Mmh. On a un père. Et lui, il dit « on n'en a pas ». Mais c'est... Il faut voir tout ça. C'est-à-dire qu'il désacralise tout. Je pense que... alors, je sais qu'à chaque fois, ça choque. Quand je dis « que fait l'IVG dans la Constitution ?» Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause l'IVG. Je dis qu'il peut y avoir un débat au sein d'un couple sur l'IVG, mais je comprends très bien que dans beaucoup de circonstances, il y a des femmes qui décident d'avorter, et je n'ai pas à juger ça. Mais en tant que Français, je considère que le bonheur a plus sa place dans la Constitution que l'IVG. Donc je ne comprends pas pourquoi les Français n'ont pas le droit au bonheur, mais les Françaises ont le droit constitutionnellement à l'avortement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, on est rentré dans un délire. Et quand tu sais qu'en ce moment, les constitutionnalistes travaillent depuis 2 ans sur 2 sujets, depuis que Ferrand est à la tête de ça,
du Conseil constitutionnel.
Et donc, il y a des gens qui ont été virés du Conseil constitutionnel parce qu'ils refusaient de travailler là-dessus.
Secrétaire général.
Voilà. Sur la France est un pays judéo-chrétien. Donc ça, dans la foulée de la loi Adam, si tu veux, histoire de mettre un dernier truc dans le couffin de la laïcité et pour continuer à essayer de tuer le Christ tous les jours. Et le chef d'État peut se représenter. Parce que l'esprit de la Ve République, c'était 2 septennats. 14 ans. Donc 3 quinquennats, why not? Mmh. Et comme, en fait, la Constitution arrivera là, ça remettra ses compteurs à zéro. Donc, en fait, il pourrait se représenter 3 fois de plus. Mais tout ça, ça va se passer. On rigole. Tu sais, depuis quelques années, je disais, on va avoir cette loi sur l'antisionisme. Et tout le monde me disait, mais non, ça ne peut pas passer en France et tout. J'avais dit, mais vous rigolez, Guesso, machin, qu'est-ce que vous croyez, la loi, ce qu'il n'y a pas. Mais le truc, là, ça a été validé par la commission des lois de l'Assemblée. Le Sénat travaillait sur le même projet. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que c'est la loi Yadam, mais le Sénat travaillait sur un projet équivalent depuis bien plus longtemps que Yadam n'a
que
été
Yadam à l'Assemblée nationale.
Élu à l'Assemblée. Donc ça passera comme une lettre à la poste probablement au Sénat, de la même manière. Et tu sais, j'ai fait du conseil dans ma carrière. Et j'ai lu, moi, les moutures de la loi, mais déjà il y a 2 ans, celle qui était en balade au Sénat. Et j'avais fait une longue lettre dans Substack en expliquant comment ça avait été construit. En fait, ils ont pris tous les procès qu'il y a eu pour antisémitisme, pour ce que tu veux, qui concerne en fait en particulier la critique de l'État d'Israël, mais qui concerne plus largement peut-être une critique des Juifs ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ils ont regardé comment les personnes se sont défendues et comment les juges ont argumenté pour innocenter ou relaxer les personnes. Mmh. Eh bien, ils ont créé une loi qui fait que plus personne ne passera dans les mailles du filet. Plus personne qui sera montré du doigt et incriminé, à commencer par Rima Assad ou plein d'autres personnes, ne pourront plus échapper à la loi. Tu ne pourras plus échapper. C'est comme la loi sur le cyberharcèlement. Si tu es incriminé par quelqu'un et que la personne porte plainte avec constitution de partie civile ou autre, même si sur le fond tu as raison, même si sur la forme tu as raison, même si en tout tu as raison, le délit pourra être constitué.
C'est ça. Et tu seras condamné. La justice française, on le sait, condamne de toute façon dans tous les cas de figure.
Mais tu sais, on a vécu ça avec les médecins. C'est-à-dire que des médecins sont condamnés parce qu'à l'époque où ils ont exprimé quelque chose, c'était répréhensible. Et les juges ou les ordres médicaux n'en ont rien à foutre qu'aujourd'hui, avec l'état de la science, on ne pourrait pas les condamner pour ce qu'ils ont dit à l'époque. Mais ils considèrent que si jamais ils acceptaient de ne pas les condamner parce que rétrospectivement ils ne sont pas condamnables, ils ne pourraient plus jamais condamner personne sous prétexte que la science pourrait évoluer, et donc il suffirait de dire ben non, mais il y a des précédents, et donc ils acceptent dans ce cas de condamner quelqu'un qu'ils savent innocent et qui devrait même récompenser pour avoir alerté en avant. Et donc ça, c'est la France, on est le seul pays au monde qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas d'autres pays qui fonctionnent comme ça. C'est les suspendus dans tous les pays autres ont été réintégrés, indemnisés, etc. Pas en France. Il faut bien comprendre, la France détruit les braves, détruit les résistants, détruit les résistances et détruit même la possibilité de résister. Et donc on agit en France sans bombe, mais avec des lois, avec des associations, avec de l'intimidation. Exactement comme Israël est en train d'agir au Liban en bombardant tout le monde ou en Iran en assassinant les gens qui la dérangent. Alors, je sais qu'on dit « mais ce régime est indéfendable, ceci, cela ». Mais la méthode est indéfendable. Depuis quand on a le droit d'aller dans un pays souverain et de tuer les gens et de partir en disant « j'ai fait le job ». Alors, c'est vrai qu'on a été préparé à ça avec James Bond, qui a une licence de tuer. Mais on n'a jamais vu James Bond, dans aucun James Bond, tuer sans légitime défense. James Bond ne tue jamais quelqu'un en traître avec une bombe dans son dos. Ça, c'est les salauds qui font ça. Maintenant, on considère que les héros, c'est ceux qu'on considérait comme des salauds hier. C'est-à-dire que dans un film, le mec qui allait bombarder les gens comme ça, c'était le pire au monde. Maintenant, c'est le héros. Non, mais on a une dérive des valeurs qui est inimaginable. Inimaginable. Et tout ça est normal. Mais quand ça devient normal, eh ben, ça s'applique à d'autres choses. On fait taire Mouton, l'architecte des monuments nationaux, parce qu'il n'a pas demandé à l'ordre s'il avait l'autorisation à la télé de dire quelque chose. Il a raison dans ce qu'il dit, mais il n'a pas demandé l'autorisation. Il y a une hiérarchie, il doit demander l'autorisation. Mais après, on a fait la même chose avec les médecins, on a fait la même chose à tout le monde. La liberté de penser n'existe plus. Et on en a souvent parlé, Nicolas. La liberté, tu sais, en parlant du premier amendement américain, du deuxième amendement américain, la liberté de penser, c'est ce qui fait nous des êtres humains. C'est Descartes. C'est « je pense, donc je suis ». Et pourquoi est-ce que tout ça n'existe plus ? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le droit de penser ? Pourquoi est-ce qu'on doit être conditionné ? Est-ce que c'est pour nous préparer à être remplacés par les machines ? Parce que ça, c'est en train d'aller vite. Hein. T'as vu les émissions récemment à la télé avec des robots chinois qui dansent de la danse classique ou qui font du kung-fu. T'avais le chancelier allemand qui voyait ça et qui dit à ses conseillers « Mais vous m'aviez dit que c'était des images d'intelligence artificielle. Ouais, » Non, ouais. C'est la réalité. C'est-à-dire que même les Allemands qui sont censés avoir des services secrets ou des gens qui les informent de l'évolution de la technologie disaient à leur chancelier quand ils s'interrogeaient sur le niveau de la robotique « Non, non, les images que vous voyez sur YouTube, vous en faites pas, c'est de l'intelligence artificielle. » Et ils se retrouvent devant et il n'en revient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appris, c'est des lanceurs d'alerte américains, qu'en ce moment, sur le front à côté de l'Ukraine, il y a 40 robots qui sont testés.
Une future armée de robots, oui.
Une future armée de robots. Mais ça va très vite, en fait.
Tout à fait, Bertrand. Bertrand, c'est une émission qui ne dure qu'une heure et demie, qui se termine dans 10 minutes. Je rappelle le titre du livre d'abord, « Fiat veritas pereat mundus, que la vérité advienne fût au prix du monde ». C'est Bertrand Scholler, S-C-H-O-2-L-E-R, qui a écrit ce livre aux collections La Table Rouge. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Chers auditeurs, on va donner droit maintenant à vos questions, et oui, si on vous demande de participer financièrement et même d'être ceux qui permettent à cette radio d'exister, Radio Courtoisie, c'est parce que c'est une radio comme il n'en existe aucune autre. Hein, et vous êtes nombreux, même à une heure où on nous raconte qu'on écoute les chaînes d'infos en continu. Eh bien non, faut croire que non, vous nous écoutez et vous nous posez, chers auditeurs, des questions à Bertrand Scholler, et ça, c'est une très très bonne chose. Radio Courtoisie ne doit être surtout comparée avec aucune chaîne de télé ou de radio. C'est une simple évidence. Et eh bien, vous êtes nombreux donc à poser des questions et nous vous en remercions. Première question, bonsoir, merci de cette émission très intéressante. Mais nous dit cet auditeur, comme l'affaire Epstein, le couple Macron ne sera jamais élucidé. Comme Macron, je suis né le 21 décembre et mon meilleur temps sur le marathon fut en 1995 quand je portais le numéro 666. C'est un pur hasard. Sans doute dans 40 ans, on va apprendre que Macron avait des maîtresses de New York en Chine, bien courtoisement. J'en suis pas sûr, hein, cher auditeur, qu'on apprenne un jour que Macron a des maîtresses de New York en Chine. Il y a plusieurs questions, hein, si tu veux intervenir.
Et
sur
juste
chacune.
En deux mots.
Vas-y Bertrand,
alors déjà le 21 décembre il y a des millions de personnes en France, alors pas des millions mais des centaines de milliers de Français qui sont nés le 21 décembre. Mais si vous vous intéressez aux dates, alors à l'astrologie, etc., demandez à des personnes qui font des profils astrologiques, c'est le lieu, l'heure, la date de la naissance de Macron donne un profil astrologique très très particulier. Ensuite, il y a l'influence du prénom, l'influence du sang, hein, le sang, quel est l'héritage sanguin de Macron, qu'est-ce qu'il a vécu quand il était enfant, est-ce qu'il est...
Il faut répondre rapidement, hein, Bertrand, il y a beaucoup de questions.
Mais voilà, ouais. Et le chiffre 666, il est statistiquement présent dans les vies. Il y a des gens qui ont ça sur leur immatriculation, sur un t-shirt de marathon, etc. En fait, ce dont j'ai parlé pour Emmanuel Macron, c'est des milliers de signes qui s'alignent. Vous, ouais. vous en avez peut-être trop quatre et c'est beaucoup. Et donc, ça vous amuse. Mais là, ils s'alignent tous. C'est comme un collier de perles. C'est comme si, dans la Voie lactée, il y avait un moment où toutes les étoiles s'alignaient et elles s'alignaient sur l'anniversaire de Macron à la lanterne. Mais il se trouve que c'est arrivé aussi. Le 21 décembre 2020, il est à la lanterne et il y a une conjonction d'étoiles qu'il n'y a eu que trois fois en trois millénaires. Donc, vous vérifierez, hein, c'est... Jupiter et Saturne qui sont alignés avec la Terre et un soir de pleine lune et un 21 décembre. Donc c'est des choses inimaginables qui se passent avec Macron.
Bertrand, il faut répondre de façon beaucoup plus courte. Beaucoup, ou alors tu D'accord. réponds pas. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Là, elle est longue, par exemple. Notre ami Jean-Denis, Macron n'est-il pas le produit parfait d'une société décadente à son apogée, d'un système démagogique à son apogée, et un comédien soucieux de sa mise en scène, poussant la transgression jusqu'au transcendantal, dans un mépris total du reste du monde. Tout n'est qu'instrument pour le psychopathe, rien d'autre. De nombreux psychologues cliniciens sont arrivés à la conclusion que pour atteindre les grands postes de direction, tant politique que dans les grandes organisations, il faut présenter trois caractéristiques banales en soi, mais à un niveau pathologique, un narcissisme surdéveloppé avec un soin particulier pour leur présentation qui les centre sur leur personne et leur fait mépriser les autres, un psychopathe qui les prive de toute compassion envers les autres, résultat d'une éducation sans contrainte qui les garde dans un état infantile de toute puissance essentiellement destructrice, un machiavélisme qui les fait passer pour des gens intelligents alors qu'en fait ils osent tout, comme Audiard l'avait bien dit, l'usage habituel du prétexte de la raison d'état semble bien une spécialité des politiques qui se prennent pour le prince dans ce régime des monarchies électives cycliques. Le tout se combine dans une ambition sans limite. Ces gens ont les dents qui ne rayent plus le plancher, mais qui attaquent le gros œuvre. Malheureusement, si Macron semble répondre à ce portrait robot, il est évident qu'il n'est pas le seul. C'est pourquoi les sociétés solides ont des dirigeants plus mûrs que cette épidémie de jeunisme qui doit tout résoudre selon les merdias de nos plutocrates.
Bon ben, en deux mots, c'est très intéressant et je penser un peu comme ça jusqu'à ce que vraiment je creuse le cas Macron et ouais. ça dépasse la pathologie en fait.
C'est ça. C'est ça. C'est ce que voilà, Bertrand lui considère que ça dépasse de loin la folie.
J'aurais aimé que ce soit ça.
Et qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus maléfique. Dantéchristique même. Un auditeur intéressant, merci. Et si des poutres. Ah, alors un auditeur qui dit, oui, mais alors moi je suis pas trop d'accord, j'ai lu hein, son commentaire, et si des poutres peuvent brûler ? Si, si, une hypothèse est celle d'un feu électrique dans une installation vieillotte, donc dans des fils courants sur ces poutres ou sur des bastins, avec pour origine une forte sollicitation et donc un échauffement dû aux tronçonneuses et disqueuses utilisées par les ouvriers sur place. Le fil brûle et enflamme doucement les poutres, petites puis grosses, c'est la contagion. Bah oui, mais bon, ça s'est fait en quelques minutes.
Il faudrait que le fil soit gros comme ça, hein. Parce qu'un petit fil ou même un fil de 2 ampères, ils font avant la poutre. Hein.
Un jeune charpentier avait produit d'ailleurs un rapport disant que les petites poutres sont parties avant et ont chauffé, allumé les grosses.
Jeune charpentier, voilà, tout est dit. et on a vu des jeunes médecins expliquer le Covid parfaitement. Hein. Blachier, par exemple. Donc on sait le jeunisme des experts sur les questions sensibles.
Bonsoir, nous dit cet auditeur, pour vous et pour Bertrand Scholler, merci de me donner dès que possible le lien de l'émission, et pour Bertrand Scholler, nous expliquer comment le général, si Mgr Michel Aupetit et Mgr Patrick Chauvet ont été virés, comme le général, car ils auraient empêché Macron de faire de Notre-Dame un temple, grand merci.
Oui, en fait, toutes les personnes... Mais même dans les équipes de décoration, il y a des peintres qui ont été virés parce qu'ils refusaient de faire des choses qui allaient dénaturer Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auraient payé pour participer à Notre-Dame, qui ont eu la chance d'y être et auxquelles on a demandé de faire des changements et ils savaient qu'en fait, c'était comme s'ils reprogrammaient Notre-Dame, ils refusaient, ils étaient virés. Mais ils n'étaient pas virés par leur chef, ils savaient qu'ils étaient virés par le binôme Macron. C'est-à-dire que les changements de vitraux, on pourrait faire une émission entière sur les vitraux, c'est apocalyptique. En fait, c'est une reprogrammation de Notre-Dame. on parle du troisième temple à Jérusalem. Moi, je pense que le troisième temple, il est à Paris.
Mmh. Ben, vous n'êtes pas le seul à le penser. Allez, encore deux questions ou deux remarques. Un auditeur. Le général Georgelin s'est tué au mont Valier, dans l'Ariège, seulement 2800 mètres d'altitude. Et c'est un sentier jusqu'en haut. Je l'ai fait, on ne pose jamais les mains. C'était en plein été, avec une centaine de grimpeurs chaque jour. C'était un parachutiste en pleine forme physique, malgré ses 75 ans, donc on parle de Georgelin. Et il avait dormi dans le refuge avant le sommet la nuit précédente. Tout accident aurait eu des témoins. Là, c'est le gardien du refuge qui ne l'a pas vu revenir le soir. Donc cet auditeur nous dit bien qu'il y a quelque chose d'étrange dans la disparition du général Georgelin. Remarque.
Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il ait vraiment fait cette aventure et qu'il ait dormi dans un refuge, ouais. Alors que c'était pas du tout un amateur d'escalade. C'est ce que tous les gens qui le connaissent ont dit.
Cet auditeur, un hôtel de bronze, donc on peut vous reparler justement de l'hôtel en bronze, n'est-ce pas une évocation du taureau d'Airain? Probablement une variété d'alliages proches des bronzes, des prêtres de Baal à Babylone, où ils brûlaient vifs les enfants sacrifiés.
Oui, mais c'est ça. Il faut savoir que le nombre de marches... Alors, prenez le Figaro, vous faites Figaro, bronze, chêne, Notre-Dame. Vous allez tomber sur un article dans le Figaro, et vous allez voir que cet article est rempli de 6. Le nombre de barreaux des chaises, le poids des chaises, le budget, le nombre de finalistes, le nombre de machins, ils n'ont pas arrêté de mettre des 6, 6, 6, 6, etc. dans tout le process. Et en plus, ça a été fait à Dieu le fit. Et ça a été commandé par Emmanuel. Et la boîte qui a été choisie pour refaire les charpentes s'appelle D'Enfer. Non mais, tout ça, tu ne peux pas l'inventer.
Non, tu peux pas l'inventer. Par contre, Bertrand, l'émission est finie, se termine. Je rappelle, fiat veritas pereat mundus, que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Bertrand Scholler, collection La Table Rouge. Voilà le livre de Bertrand Scholler. N'hésitez pas, chers auditeurs. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Vous étiez nombreux à nous poser des questions. C'est toujours un plaisir. N'hésitez surtout pas. Vous voyez, ces questions, je les pose ensuite à nos invités. Nous étions très heureux d'avoir Bertrand Scholler dans cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne soirée sur Radio Courtoisie et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 8 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.